Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Très bonne information d'Isabelle Langer. Et à mon avis, ce n'est que le début parce que...
Ça sent la polémique.
Ah bah ça, c'est très étrange. Alors, il est 13h02. Est-ce que Monsieur Bouvard est avec nous déjà?
Oui, oui.
Bonjour Philippe et merci
Bonjour.
D'être avec nous. Et ça me fait très plaisir que vous soyez sur l'antenne d'RTL que vous connaissez si bien.
Oui, ça me fait plaisir. Mais je voudrais vous dire que, bon, je suis de cœur et d'oreille avec vous, mais que je suis quand même né après la radio.
Oui, effectivement, vous êtes un peu plus jeune que les 100 ans. Mais par exemple, on est d'accord que la première fois où vous intervenez sur RTL, et ça s'appelle Radio Luxembourg, c'est avec les chroniques parisiennes, et nous sommes en 1965, Philippe Bouvard.
Oui, alors, en fait, j'avais commencé, je crois, avec 3 minutes par après-midi. Mais j'étais très content parce que, bon, j'écoutais RTL et de me retrouver sur ces ondes, c'était très gratifiant. Sauf qu'au bout de 15 jours, l'animateur, qui était d'ailleurs un type assez jeune et très talentueux, a eu un très gros problème. Enfin, je crois qu'il s'est donné la mort. Et quand je suis arrivé, tout le monde était catastrophé, bien sûr, mais très embêté techniquement, parce qu'il n'y avait plus personne pour prendre l'antenne. Et alors, il y a un technicien, qui est d'ailleurs devenu celui des grosses têtes ensuite, qui a dit, mais pourquoi pas demander à Bouvard ? Et ben, Bouvard, il a dit, je suis venu pour 3 minutes, mais je veux bien faire aujourd'hui. L'émission durait à l'époque de 2 heures. Je veux bien faire 2 heures, mais pas plus, hein, parce que moi, c'est surtout la presse écrite, mon métier, et je ne saurais pas faire ça. Et puis, total, ça fait 54 ans que ça dure.
Bon. Alors, le principe de l'émission, évidemment, qui a été lancé dans les années 70, début des années 80, les auditeurs ont la parole avec Alain Cros, c'est évidemment les auditeurs qui ont la parole. Donc, François a la parole, François Dorbeck, qui voulait peut-être vous poser une question ou échanger avec vous, Philippe.
Oui, oui. Mais bien sûr.
Allez-y, François.
Oui, mais écoute, d'abord, bonjour, Monsieur Bouvard, parce que je pense qu'il y a des gens qui méritent le monsieur et vous en faites partie.
Oh, ben, mon cher François, enlevons monsieur, parce que, vous savez, la radio, c'est quand même un média intime. Hein. On parle directement dans l'oreille de ses auditeurs et finalement, on devient des amis.
Oui. Et j'aurais une question à vous poser. Vous avez réalisé tellement de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait toujours possible de réaliser les mêmes émissions avec la même facilité et la même approche de la culture que vous avez amenée à la radio ?
Alors, je vais vous dire, c'est une très bonne question qui appelle une réponse entièrement négative. Rien de ce que j'ai vécu il y a plusieurs décennies, et surtout dans ma jeunesse, ne serait plus possible aujourd'hui. Je dis rien. D'abord parce que j'ai pas le bac, j'ai juste un certificat d'études primaires. Donc, je ne pourrais pas passer, comme j'ai pu le faire en entrant au Figaro, du poste de garçon de course à un poste rédactionnel. Il y a un cloisonnement. Vous êtes définitivement rangé parmi les 100 diplômes. Et puis bon, c'est fini. Et puis, tout était à faire à l'époque. Donc, si on était jeune, si on n'était pas trop antipathique, si on était courageux, si on avait une vraie vocation, tout le monde vous aidait. Et je crains, hélas, pour les jeunes, que ça ne soit pas la même chose aujourd'hui.
Mais pour prolonger un peu ce que dit François sur l'importance de la culture, Philippe, que vous représentez, c'est vrai que vous alliez une télévision ou une radio populaire avec une exigence intellectuelle et culturelle, et notamment lors des émissions des années 70 qui sont incroyablement modernes, qu'on revoit parfois sur une chaîne comme Mélodie. On est surpris de la qualité des questions, de la précision des questions, du niveau culturel aussi des interlocuteurs, comme si vous aviez tout inventé avant tout le monde.
Non, mais si vous voulez, La culture, c'est une culture d'autodidacte et c'est une culture que j'ai pu glaner en faisant venir des gens plus cultivés et plus intelligents que moi. Et Dieu merci, ils venaient. Mais on était très exigeants, c'est-à-dire que on posait des questions qui, d'abord, dont on espérait qu'elles intéresseraient tout le monde, et puis on les posait à des gens aussi éminents et cultivés que Jean Dutour, qui a été la bonne conscience culturelle des grosses têtes jusqu'à sa disparition. Ah, je voudrais évoquer là un petit souvenir, parce que quand j'ai su qu'on fêtait les 100 ans de la radio, et c'est un anniversaire qui m'est très cher, qui me tient à cœur, je me suis souvenu d'un personnage, mais est-ce qu'on s'en souvient encore, qui m'avait accueilli lorsque j'étais arrivé à la rédaction, parce que bon, au départ, je connaissais pas grand monde, à la rédaction de RTL. Alors, je sais pas si son nom va vous dire quelque chose. C'était Geneviève...
Geneviève Tabouy ?
Oui, eh ben vous avez gagné, vous reviendrez en deuxième semaine.
Bien sûr. Eh bien, alors, on va en parler tout de suite après la pause, Philippe. Philippe,
une très vieille dame.
Première pause, Philippe. Première pause, et vous nous direz qui était Geneviève Tabouy, qu'effectivement les auditeurs comme moi, les anciens, en tout cas connaissent le nom. À tout de suite, Philippe.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et c'est une émission un peu particulière puisque les auditeurs vont échanger avec Philippe Bouvard. Ce sont les 100 ans de la radio. Et Philippe nous raconte que lorsqu'il est arrivé à la radio, il est arrivé dans la rédaction, il est tombé entre guillemets sur Geneviève Tabouy.
Alors,
qui était déjà assez âgée.
Une très vieille dame qui avait une voilette, un pince-nez et des mitaines. Vous voyez le genre, hein. Mais on lui devait deux fois la révérence parce que d'abord, elle était mariée au général Tabouy qui dirigeait Radio Luxembourg. Et puis ensuite, elle était devenue une icône de ce qu'on n'appelait pas encore les médias parce que en 1938, elle avait interviewé Adolf Hitler dans son Idaigle de Berchtesgaden. Alors ça, c'était l'exploit journalistique absolu, hein.
Et donc, elle vous avait accueilli à ce moment-là. Merci beaucoup, François, pour cette premier échange avec Philippe Bouvard. Jacques est là également, Jacques qui habite dans le Jura. Bonjour, Jacques.
Bonjour, Pascal. Bonjour, M. Bouvard.
Bonjour, mon cher Jacques.
C'est un honneur de vous parler, M. Bouvard. Vous avez été une des premières personnes à me faire pleurer, M. Bouvard, mais de rire.
Pardon ?
Vous avez été la première personne à me faire pleurer, mais de rire. Mais
oui.
J'ai passé pas mal de temps dans ma voiture et je vous écoutais tous les jours, bien évidemment, en roulant. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où j'ai été obligé de m'arrêter parce que qu'est-ce qu'on s'est marié avec vous ? Mais qu'est-ce qu'on s'est marié ? Et moi, je suis impressionné par votre capacité d'avoir toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et moi, je voulais vous poser une question. Quel est votre meilleur souvenir, parce que je pense qu'il y en a des dizaines, mais quel est un de vos meilleurs souvenirs à la radio ou à la télé que vous avez pu vivre dans votre carrière aussi longue et aussi belle surtout?
Alors écoutez, que vous parliez des auditeurs en voiture, ça me rappelle des bons et des très anciens souvenirs. Quand je faisais RTL non-stop, qui a été ma première grande émission pendant 7 ans, et c'était 2h30 de direct tous les jours, donc c'était sérieux mais très vivant. Et alors, on faisait souvent cette émission sur un bateau mouche qui remontait la Seine. Et alors, je m'adressais, parce qu'il y avait encore des voies sur berge avec beaucoup de voitures, et je m'adressais aux automobilistes, enfin en pensant qu'ils m'écoutaient. Et alors je les invitais à user de leur avertisseur sonore ou à faire certaines choses, et c'était un vacarme inouï qui prouvait qu'on était presque écouté à 100% par ceux qui étaient au volant. Ah, c'était formidable.
Hein. On a retrouvé un extrait d'ailleurs, Philippe. On est le 4 4 mars 1975, parce qu'en fait, vous avez présenté le 13h, ce que les gens peut-être ont oublié, vous avez fait tellement de choses. Écoutez cet extrait.
Le journal non-stop de Philippe Bouvard.
Bonjour. Qu'on le sache et qu'on se le dise, l'État ne veut plus aider les films pornographiques médiocres. Le principe n'est donc pas remis en cause, mais les esthètes du pouvoir tiennent à la qualité. Implicitement, ils souhaitent donc des filles plus jolies, des scénarios moins platement tirés du Kama Sutra, des metteurs en scène plus imaginatifs et plus talentueux, capables de trouver un angle original pour filmer un acte vieux comme le monde. La sollicitude manifestée à cette activité, qui fut longtemps l'apanage des salles spécialisées, m'amène à penser que, dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent, les images affriolantes constituent peut-être un stimulant démographique, un accélérateur de naissance, un facteur de repeuplement.
Ce qui est tout à fait extraordinaire, Philippe, en écoutant cela, c'est combien ce texte n'a pas vieilli. Il a 46 ans, nous sommes en 75.
Ah, attendez, Pascal, il faut que je vous dise que, d'abord, ce journal qui a comblé mes ambitions journalistiques, parce que ce n'était pas du divertissement, m'a procuré aussi mes plus grandes craintes. Parce que, bon, c'était du sérieux, je ne pouvais pas me tromper. Et puis, le jour où j'ai invité Georges Marchais, je me souvenais qu'il avait dit « Taisez-vous, El Kabash » et qu'il aurait pu faire la même chose avec moi. Mais j'avais pris la décision qui a été appliquée pendant les près de 3 années que j'ai passées aux commandes de ce journal, qu'il n'y aurait pas de papier, que personne ne lisait rien. Si quelqu'un venait avec un papier, je mettais le feu avec mon briquet.
Ben, c'était la question que j'allais vous poser, puisque Jacques Esnoux, pour tout vous dire, m'a dit cela il y a quelques semaines. Il m'a dit qu'il retirait les papiers aux journalistes. Et je trouve que vous avez tellement raison. Moi, je passe mon temps à dire souvent que les journalistes disent des choses plus intéressantes en conférence de rédaction qu'à l'antenne. Donc j'aimerais qu'ils soient à l'antenne comme ils sont en conférence de rédaction. Donc je suis d'accord avec vous. Mais on reconnaît quand même le style Bouvard là, parce que c'est très écrit, hein, ce qu'on vient d'entendre. Il y a également de l'ironie, du second degré, il y a une langue châtiée, il y a une qualité de diction, donc on retrouve effectivement tout ce qu'a fait votre succès.
Oh ben, il y a quelque chose qui a beaucoup changé hein, depuis ce temps-là. C'est que les confrères, et les très talentueux confrères, ils parlent de plus en plus vite. Alors que nous, on prenait le temps de s'exprimer et pensais-je le temps d'être compris par ceux qui nous écoutaient. Mais aujourd'hui, moi, j'avoue que je perds quelquefois un petit peu le fil. Et puis que j'ai peur, parce que je continue quand même à faire des émissions sur RTL le matin et je vais être conduit, merci mon Dieu et merci Monsieur Ravanas et Monsieur Taverneau, je vais être conduit pour la 54e année dans quelques semaines en septembre. Je passe mon temps à me dire, mais est-ce que je ne suis pas trop lent, est-ce que je n'ai pas l'air de chercher mes mots, parce que je parle comme on parle dans la conversation, sans se bousculer autant.
Merci Philippe, on va marquer une nouvelle pause. Thierry va être là dans une seconde et puis j'imagine que si vous êtes en voiture, ben, c'est un plaisir d'écouter Philippe Bouvard qu'on a tellement écouté et notamment un auditeur le disait tout à l'heure, mais des fous rires avec Jacques Martin, avec Jean-Yann, avec Kersauzon, une époque des grosses têtes lancées en 1977. C'est une histoire évidemment de nos vies, Philippe Bouvard, il appartient à notre mémoire. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Marsic nous écoute, c'est le spécialiste média d'RTL et il me précise que cet été, il produira une chronique sur Geneviève Taboui dont nous parlions il y a un instant. Elle avait la carte de presse 001 quand même, Geneviève Taboui. Il m'a même envoyé une photo de la péniche non-stop, RTL non-stop, dont parlait Philippe Bouvard il y a un instant. Thierry est avec nous. Bonjour Thierry. Thierry, qui habite la Charente, est-ce que Thierry est avec nous? Si Thierry n'est pas... Alors Elisabeth est avec nous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous avez peut-être une interrogation à avoir avec Philippe Bouvard, une question à poser.
C'est vraiment une... C'est tellement une personnalité, c'est... Voilà, là, mon Dieu, c'est même dur de pouvoir lui poser une question, parce que depuis toute petite, pour moi, c'était les grosses têtes à l'époque de Jean-Yann. De même réussir à avoir Jean Dutour aux grosses têtes. On a vraiment... vraiment passé des super moments de rigolade, etc. Enfin, et j'ai même les 33 tours encore qu'on avait achetés à l'époque pour pouvoir surpasser ça sur la platine. Oui.
Ah ben, alors, écoutez, je me souviens que, bon, pendant 37 ans, les grosses têtes que je faisais 2 heures, puis 2 heures et demie le jour, et puis qui se prolongeaient par 90 minutes nocturnes, ont fait partie de ma vie, comme elles ont fait partie de la vie des auditeurs. Et alors, j'étais entièrement conditionné. Dès que j'entendais le générique, j'étais dans un état second. Et ça durait quand même une bonne partie de l'après-midi, et c'était toute l'année sans un jour de repos, même le week-end et pendant les vacances. Alors, ça a été une période formidable. Mais je voudrais évoquer là le souvenir de quelqu'un que vous avez peut-être connu, encore que je crois qu'elle était là en même temps que moi, et puis que elle a disparu, hélas. C'était le souvenir de Minnie Grégoire. Alors, Minnie Grégoire était une grande bourgeoise qui était mariée à un conseiller d'État et qui avait eu l'idée de proposer à RTL la première émission sexuelle, c'est-à-dire qu'elle confessait les auditeurs sur leurs problèmes, mais elle le faisait avec une dignité, un sérieux, c'était pas de la gaudriole du tout. Et alors, je me souviens qu'un jour, on l'invitait aux grosses têtes parce que elle était entièrement au premier degré et nous au deuxième et au troisième, et c'était drôle, la confrontation. Et alors, la première fois où je l'ai présenté à Jacques Martin, je lui dis, ben Jacques Martin, je vous présente Minnie Grégoire qui est sur notre antenne. Ah bon? Et Martin lui dit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dit Minnie, je m'occupe des questions sexuelles. Et Martin lui dit, ben j'espère que vous êtes lavé les mains avant de venir.
Toujours le bon mot. Toujours le bon mot de Jean-Yann.
Philippe, Martin, vous êtes un intervieweur parmi toutes les choses que vous avez faites. Évidemment, l'interview, vous excellez dans cette science de l'interview. Quelle est la première qualité pour vous d'un bon intervieweur ?
Je crois que c'est d'avoir à la fois de l'empathie et de la curiosité. Mais pas seulement une curiosité professionnelle, une curiosité personnelle à l'égard de la personne qu'on va interviewer et de ce qu'elle représente. Parce que si on n'a pas un véritable intérêt, si on fait semblant d'en avoir un, il manque de la passion, il manque du contact humain. Et la preuve que les interviews à l'époque étaient assez réussies, c'est qu'ils se prolongeaient longtemps après l'émission.
Thierry, vous voulez vous interroger de Charente. Ah. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal, désolé tout à l'heure, ça n'a pas marché, je ne sais pas.
Je vous en prie.
Bonjour à M. Bouvard et merci parce que c'est un honneur de parler à M. Bouvard. Si j'avais su de tout petit que quand mon papa me faisait écouter RTL, qui n'est plus ce monde, qu'un jour je parlerais à M. Bouvard qui idolait très tant, j'aurais jamais cru. Mais bon, c'est tout arrive dans la vie. Et moi, M. Bouvard, c'est une voix. C'est la proximité. Je pense qu'il n'y a que la radio qui nous transmet ça. Quand on écoute la radio, on a l'impression d'être avec l'animateur. On fait partie de... Contrairement à la télévision, où c'est plus si réel la télévision, alors qu'on le voit, alors qu'à la radio, on ne fait qu'entendre une voix. Et M. Bouvard, comme, si je peux me permettre, M. Bellemare, ce sont des voix qui font partie de notre vie, enfin de la mienne en tout cas.
L'importance de la voix, Philippe Bouvard, VOX.
C'est peut-être une des singularités de la radio et sa supériorité sur la télé, qui par ailleurs est devenue la reine des médias, c'est qu'il y a entre celui qui écoute et celui qui parle sans image une proximité plus grande qu'avec.
Et même, Et même, je dirais, si je peux me permettre, pour vous dire la magie de la radio, je connais de nombreuses personnes qui, pour un match de foot, allument la télé, coupent le son et mettent les commentaires de la radio.
C'est d'ailleurs une des rares choses que vous n'aviez pas faites, Philippe Beauvoir, dans ce métier, c'est commenter un match de football. Mais je pense qu'à part ça, vous avez fait à peu près tout.
Non seulement j'ai jamais commenté un match de foot, mais je n'en ai jamais vu aucun.
Bon, effectivement.
Je ne m'intéresse absolument pas à la baballe. Voilà.
Ben merci Philippe, parce que cette demi-heure, on vient de la passer avec vous et c'est un plaisir parce que, oui, il faut le dire, vous êtes un modèle pour bon nombre de journalistes. Et quand je dis que vous aviez tout inventé, vous étiez à la frontière du journalisme et du divertissement. Les interviews People, bien avant qu'on les appelle People, c'était vous. Les interviews d'hommes politiques, de sportifs, mais de personnalité. Et puis votre nom est indissociable des grosses têtes, disons-le, de Jacques Martin, de Jean Dutour, de Jean-Yann. Il y a des sketchs, par exemple, que je peux réécouter. Je pense au Putéal, je pense à Montluçon, je pense à Bonnet, où tout d'un coup...
Mon cher Pascal,
Jacques Martin part dans des délires sur un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bonnet.
Oui, ah ben oui, ça c'était je crois ce que Jean-Yann a fait de plus drôle et de plus inattendu. Mais mon cher Pascal, je voudrais vous demander une faveur.
Avec plaisir, elle est accordée.
Eh bien écoutez, vous savez, je fais trois petites pastilles de bon matin sur RTL le samedi et le dimanche, qui me donnent à la fois beaucoup de travail et beaucoup de plaisir. Mais si vous aviez besoin l'après-midi de quelqu'un qui est absolument imbibé à 100% par l'actualité et qui a encore quelques idées, je suis toujours à votre disposition.
Bah écoutez, c'est entendu, cher Philippe, c'est entendu et on vous passera régulièrement un petit coup de fil pour pouvoir échanger ensemble. Merci Philippe Beauvard, merci vraiment beaucoup.
Merci à tous.
Et il est 13h27, c'était un vrai plaisir d'avoir Philippe pendant cette demi-heure. On marque une pause et on enchaîne avec les autres sujets du jour. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
RTL.
Roland-Garros 2021.
Isabelle Langer, bonjour.
Il n'y a plus de Français à Roland-Garros.
Non, mais bon, là, on ne va pas remuer le...
Moi, je rigole.
Mais en revanche, on va essayer d'avoir un petit échange ensemble, parce que j'étais avec Patrice Agelauer tout à l'heure, avec Christelle. On n'a pas été convaincus. Donc, je voudrais vraiment votre analyse à vous, et ça m'intéresse. Mais d'abord, ce qui se passe aujourd'hui.
Ce qui se passe aujourd'hui, on a la qualification de Victoria Azarenka, la Bélarusse, qui a éliminé l'Américaine Madison Keys, qui était demi-finaliste ici en 2018 et quart de finaliste en 2019. 6-2-6-2 pour Azarenka. On va suivre, il y a des beaux matchs hein, quand même aujourd'hui. Il y a Alexander Zverev qui va faire son apparition sur le central dans quelques instants, l'Allemand face au Serbe Djere. On aura Serena Williams, on aura ce soir surtout Stefanos Tsitsipas contre John Isner.
Alors on est avec des auditeurs et c'est le principe de l'émission, donc Isabelle restez, mais c'est eux aussi qui vont peut-être vous intéresser. Interroger et pourquoi pas vous poser des questions. D'ailleurs, c'est la même chose, interroger et poser des questions. Disons-le, Bernard est là. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour Pascal.
Bernard, votre sentiment, votre avis, vos conclusions?
Moi, écoutez, je pense que ce fiasco, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas, est dû pour deux raisons fondamentales. Et la première raison, d'ailleurs, je citerai un de mes amis belges, qui s'appelle Christian, d'ailleurs, qui m'a dit « Vous les Français, vous n'y arriverez jamais ». Ben j'ai dit pourquoi ? Il dit parce que dès que vous avez un joueur qui est bon, qui gagne, tout de suite vous l'encensez, vous lui mettez la pression, il va réussir, il va gagner, etc. Et dès qu'il rate, vous le dégommez, quoi, si vous voulez. Donc ça déjà, on est quand même, je pense qu'on ne fait pas tout à fait ça dans les autres pays. Enfin bon, je n'ai pas l'expérience de tous les autres pays. J'en veux pour un exemple, et d'ailleurs je sais que vous l'avez bien apprécié, celui-là, notre petit Gaston de la fois dernière, qui nous a enchantés. Bon, il y a eu quand même, à mon avis, une petite pression. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Toc, il dégage au premier tour avec Gasquet, si vous voulez. Ça, c'est la première raison, pour moi. C'est donc la raison du pays, des médias, j'en sais rien. Puis la deuxième raison, à mon avis, c'est une question de mental, de gagne. Et là, encore une fois, je ne vais pas critiquer ces joueurs parce que je les comprends. Parce que quand on veut être sportif de haut niveau, quand on veut gagner des choses comme ça, il faut penser tennis, il faut vivre tennis, il faut manger tennis, il faut boire tennis, etc., etc. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que dans notre mentalité, Moi d'ailleurs, je pourrais pas le faire, quoi, si vous voulez. Donc je vais pas les critiquer, et j'en veux pour un, parce que j'essaie d'étayer ce que je dis. Un exemple. Regardez notre Yannick Noah. Bon, il était extrêmement doué. Il a gagné Roland-Garros. Mais il a fait une
il n'était pas extrêmement
carrière.
Doué, justement, si vous me permettez. Oui, il n'était pas extrêmement doué. Le comte était plus doué que lui. Il avait la niaque. Faut se souvenir du jeune Noah. Mais Isabelle va vous répondre sur ce que vous avez dit. Est-ce qu'au fond, c'est de la faute d'Isabelle qui en sens trop ou des médias qui en sens trop?
Vous voulez que je réponde?
Ah bah oui, vous êtes la spécialiste, Isabelle.
Non, mais je ne savais pas si vous parliez à votre auditeur ou à moi. Moi, je suis d'accord avec l'auditeur. Et alors, sur Hugo Gaston, je voudrais revenir là-dessus d'ailleurs. Parce que moi, l'année dernière, je disais qu'Hugo Gaston, c'était très bien. Mais qu'Hugo Gaston, il fallait se méfier. Parce qu'il n'est pas aussi dans la norme des joueurs actuels. C'est-à-dire, c'est un petit gabarit, etc. Et pour performer au plus haut niveau, aujourd'hui, on le voit, dans les 10 meilleurs joueurs du monde, ils sont à tous au moins 1m minimum 85, voire surtout 90-95. Et l'année dernière, je m'étais fait taper sur les doigts parce que je critiquais le fait que Hugo Gaston n'avait pas le physique pour réussir. Donc bon, voilà, je disais juste une vérité sur le circuit. Aujourd'hui, il y a des gabarits aussi. Et ça, il faut en être conscient. Sur le mental, monsieur a raison, il y a du travail à faire. Et ça, tout le monde nous le dit, hein, que ce soit Henri Lecomte ce matin sur notre antenne, ou même Patrick Sagelower tout à l'heure. Le mental, il est important. Vous avez raison, Pascal. Oui, Yannick Noah avait peut-être plus la niaque que certains. Hier, je discutais avec Julien Varlet, ancien joueur et aujourd'hui reconverti comme entraîneur. Il me disait qu'il était allé sur des tournois en Bosnie, vous savez, des tournois de seconde zone. Il dit, on arrive là-bas, il n'y a que des morts de faim qui sont là. Et effectivement, c'est là qu'on voit ceux qui vont s'en sortir. Après, on a souvent des très bons juniors, mais il y a des pays qui ne jouent pas les compétitions chez les juniors. C'est le cas notamment des Espagnols. Ils ne sont pas chez les juniors. Donc nous, nos juniors, quand ils sont très très bons et qu'ils débarquent sur le circuit où là, il y a 2000 joueurs, ah bah, ce n'est pas la même condition que quand vous êtes 50.
Bon, on va faire la pause, en tout cas. Vous aiderez... le tennis a de la chance quand même, parce que ça se passerait au foot. 37 ans sans victoire, je peux vous dire que ça commencerait à bouger.
Vous avez attendu combien de temps pour gagner une Coupe du Monde, Pascal?
Mais c'est
non, mais
c'est,
voilà, il y a aussi des générations.
Oui, bah, ça en fait plusieurs qui passent à côté quand même, 37 ans. Mais bon, on va continuer la discussion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'une mentalité française, puisque en football, par exemple, on a des morts de faim. C'est-à-dire que le football a su recruter des joueurs aujourd'hui qui précisément ont des qualités ou un mental que n'avaient pas leur aîné parfois, ou en tout cas les joueurs des années 60 ou 70. Là, vous avez des joueurs, croyez-moi, ils ont envie. Et en tennis, il y a quelque chose qui ne passe pas. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Bruno et nous échangeons sur le tennis. Vous savez que pour la première fois depuis 68, en fait 68 c'est le début de l'ère Open, c'est pour ça que c'est la première fois que ça arrive, Isabelle Langer, c'est cela ?
Excusez-moi Pascal, j'ai Jean-Michel Rascol qui vient d'arriver, il est en train de me parler.
Bon, Jean-Michel Rascol qui, lui, je le rappelle, chaque année a vu la victoire de Yannick Noah. Il travaillait déjà pour RTL en 1983. Il travaillait avec Fabrice Balédan, je vous le rappelle, Isabelle Langer.
Et il a mis le casque, qui vous écoute. Ouais, mais...
bon,
quelle était
confirme.
Votre question, Pascal
Ma question, c'est la première fois depuis 1968 qu'aucun Français n'est présent au troisième tour. Et 68, c'est le début de l'ère Open, c'est ça, hein, c'est de l'ère Open. C'est pour ça que c'est absolument incroyable. Ce qui est arrivé hier. Alors, les auditeurs dialoguent avec vous, Jean-Michel et Isabelle, vous êtes des spécialistes de tennis. Nous sommes donc avec Bruno. Bonjour Bruno.
Oui,
votre analyse et peut-être une question.
Alors, mon analyse sur les résultats des Français depuis un certain temps, en fait, moi je voulais intervenir tout simplement pour vous dire que, en fait, la Fédération française de tennis, en fait, il y a deux échelons. Le premier, c'est qu'ils ne vont pas recruter les jeunes. Entre parenthèses, des banlieues. Je parle de mon cas. Moi, quand j'ai commencé le tennis, j'étais passionné depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé à faire du tennis avec une balle en mousse. Et j'ai réussi à avoir par une association une entrée pour avoir une carte pour faire des tournois. Et en fait, je me suis aperçu, je me suis donné à fond. Et en fait, je me suis aperçu que s'il n'y a pas d'argent, on n'y arrivera pas au tennis. C'est pour ça que moi, je suis dans un club actuellement. Et je vois des jeunes qui ont entre 12, 15, 13 ans, 14 ans qui se démerdent super bien. Le seul souci, c'est qu'ils ne monteront jamais. Parce que dans le tennis, on a beau dire qu'il s'est démocratisé, si on n'a pas l'argent, on n'y arrivera pas. Et moi, je trouve que c'est dommage.
C'est-à-dire que si on n'est pas d'une famille au départ aisée, par exemple, on ne peut pas être un grand joueur de tennis. Isabelle Langer, réponse.
Dans tous les sports, entre parenthèses, de riche, comme la Formule 1, si on a l'argent, on réussit. Si on n'a pas l'argent, on ne réussira pas.
Moi, j'ai le sentiment que ça, c'est quand même que les choses ont changé pour le tennis, Isabelle.
Mais non.
Il y a plusieurs choses, ça a changé un petit peu. Monsieur a raison, il faut quand même s'appuyer aussi sur l'association de Yannick Noah, hein. Faites le mur qui va dans les banlieues, qui donne l'opportunité aux joueurs peut-être de pouvoir sortir quand même. Après, ils ont passé une convention avec la Fédération Française de Tennis, donc ça va peut-être venir petit à petit. Ou monsieur a raison, et Gilles Moreton, le nouveau président de la Fédération Française de Tennis, le dit, effectivement, lui qui a été président de la Ligue du Rhône, effectivement, ce sont souvent des familles qui ont un peu plus de moyens qui permettent à leurs joueurs d'aller aller jouer des matchs à l'étranger, etc. Mais c'est là où lui veut travailler, c'est donner les moyens à des petits clubs dans les départements, aux professeurs, aux familles, qui pourra les accompagner et leur donner un peu plus de moyens pour pouvoir aller chercher d'autres jeunes.
J'ajoute juste une chose, Pascal. L'une des plus belles ligues de France, c'est la Ligue de Seine-Saint-Denis. À Bondy, et d'ailleurs ce sont des cours en terre battue puisque c'est la surface d'origine du tennis français, et à ce titre-là elle accueille des joueurs, forcément des joueurs issus de la banlieue.
Bernard est avec nous, bonjour Bernard, qui habite dans les Alpes de Haute-Provence et qui est un joueur de tennis peut-être, Bernard ?
Non Pascal, je suis passé en premier là aussi. J'habite dans les Alpes de Haute-Provence à Josier, le plus beau village de France, comme je dis souvent. Mais non, je joue pas. Mais mon analyse, je l'avais faite. Mais si vous permettez, puisque vous me redonnez la parole, je voudrais reparler de ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, déjà que on a parlé d'Henri Lecomte qui faisait une critique. Écoutez, je m'excuse, mais c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Quand
ah non. Ne critiquez jamais Henri Lecomte. Il a battu Sampras en 91 dans le deuxième match de Coupe Davis. Et quoi qu'il arrive, il est dans l'histoire. Quoi qu'il arrive avec ce match-là, vous savez que c'est un des plus beaux matchs de tennis du monde.
Le vengeur masqué.
Non, mais quand il met 3-0 à Sampras, ce vendredi soir, et qu'il redonne le point à l'équipe de France, croyez-moi, ce match-là, il est dans la légende.
Oui, écoutez, c'est votre avis. Bon, tout à fait, vous avez raison. Moi, c'est pas du tout le mien, parce que je pense qu'il n'avait pas le moral, lui. Il n'avait pas le mental. Je pense qu'il n'avait pas. C'était peut-être un des meilleurs joueurs qu'on ait eu. Il avait un revers d'enfer, quoi. Mais je pense. Alors bon, bah, excusez-moi d'avoir dit ça, mais.
Non, mais vous avez bien compris, je vous taquinais. En disant cela, mais c'est un joueur tellement doué.
Non, voilà, donc moi je rajoute pas. Et ce que je disais, c'est que, souvenez-vous, Yannick Noah, qui nous a fait rêver, etc., il y a un moment, je me souviens d'une interview, il avait dit « Ah, dis donc, je travaille vachement moins que Lendl, hein, Lendl qui était vraiment une bête à gagner. » Il a dit « Je travaille, et quelquefois je le bats. » Donc, si vous voulez, c'était un peu faire l'apologie des gens qui sont doués, qui travaillent moins, qui ont moins le sens, si vous voulez. Et ça, c'est un peu la... Enfin, je dis dans le tennis, sinon je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur le foot. Mais dans ce sport-là...
Ils ont moins la niaque. Alors, Sullivan est là également. Sullivan qui habite Perpignan. Et Sullivan a peut-être... vous êtes vous-même joueur de tennis amateur, Sullivan ? Sullivan, bonjour, une fois. Sullivan, deux fois. Sullivan n'est pas là. Bon, bah écoutez, on va marquer une pause, peut-être à 13h45. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier, parce qu'on ne parlera pas que tennis.
Nous vous attendons sur d'autres sujets. Tiens, partagez-vous cet avis d'Emmanuel Macron.
Nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente, et ça ressortait beaucoup aussi des débats. On vit dans un monde qui n'est pas simplement cette rue où je vois vos visages, où on se parle et on se respecte. Mais à la seconde d'après, on va rentrer sur nos réseaux sociaux, où quelqu'un avec un pseudonyme va me dire les pires horreurs, un autre lui répondra. Et beaucoup de gens qui vivent seuls ne vivent que dans ce monde-là. Et donc ils sortent dans la rue, Ils se comportent comme sur les réseaux.
Pour le chef de l'État, la nation vit un sentiment d'insécurité. Eh bien, ce n'est pas un sentiment, mais une réalité, écrit Jeanne. Sur nos réseaux sociaux, la violence est permanente. On n'en peut plus, s'énerve David. Je ne me sens plus en sécurité dans la rue à n'importe quelle heure. Ce doit être la priorité de la classe politique, demande Benoît. Et vous, qu'en pensez-vous? Notre société est-elle de plus en plus violente? 32-10. Nouvelle polémique autour du chanteur Youssoupha après la chanson Écris mon nom en bleu. Il s'est exprimé sur le Rassemblement national. Il était hier soir sur le plateau de Quotidien.
C'est des partis qui sont racistes, qui sont antisémites, qui sont homophobes, qui dansent avec des nazis. Du coup, c'est pas à moi de refixer ce portrait-là. Je pense que tout le monde le sait, on est prévenu.
Le chanteur Youssoupha a-t-il été trop loin? 32-10, 3-2-1-0 sur votre téléphone.
Et vous allez pouvoir donner votre avis. Je vous annonçais Sullivan, il est là cette fois-ci. Il habite Perpignan. Et Sullivan, je vous demandais si vous étiez vous-même joueur de tennis.
Oui, bonjour Pascal. Non, je ne suis pas joueur de tennis. Je suis le tennis, mais comme beaucoup d'autres sports. Et je pense que c'est général cette histoire de mentalité de la gagne dans le sport français, dans le tennis notamment puisque c'est le sujet du jour, mais dans le cyclisme depuis Hinault il n'y a plus rien, dans la Formule 1 depuis Prost. Enfin, il y a beaucoup de
mais dans le sport au roi en France, on a des mentalités différentes. Pour le coup, les footballeurs, on peut pas leur reprocher de ne pas aller entre guillemets au charbon. Hein. C'est des mentalités, c'est des guerriers aujourd'hui, les footballeurs.
Oui, mais je pense, en fait, ils ont le talent, ils l'ont, mais je pense que leur mentalité, ils l'ont développée dans les clubs étrangers. Moi, je suis sidéré quand j'entends des joueurs français qui vont jouer à la Juventus de Turin ou dans d'autres clubs et qui ils découvrent le professionnalisme. Et des fois, dans certaines interviews, il explique que la charge de travail n'est pas la même, le sérieux, le professionnalisme, en fait, est beaucoup plus développé à l'étranger. Si c'était les joueurs qui étaient assis dans le championnat de France, ou dans cette mentalité française, on va dire, je ne suis pas certain qu'on aurait les résultats aujourd'hui.
Donc, pour vous, c'est une question de mental. Alors, c'est vrai qu'Isabelle et Jean-Michel qui sont avec nous, Jean-Michel Rascol et Isabelle Langer, spécialistes tennis pour RTL, c'est vrai que cette mentalité, ce moral, je crois qu'on a fait un peu le tour, puisqu'on le dit depuis...
Je vous trouve un petit peu dur quand même, Pascal, parce que je regardais les chiffres. Vous me parlez de Lecomte, par exemple, pour qui j'ai le plus grand respect et qui a fait une carrière formidable. Il a été 6e mondial, il a gagné 9 tournois dans sa carrière, il a fait une finale à Roland Garros, une demi-finale à Wimbledon. Mais depuis, il y a eu aussi des joueurs qui ont eu la niaque comme lui et qui sont allés gagner. Tsonga, c'est 18 titres. Il a été 5e mondial. Il a fait une finale à l'Open d'Australie, une demi à Roland, une demi à Wynn, un quart de finale à l'US. Mon fils, c'est 10 titres. Gasquet, c'est 15. Simon, c'est 14 titres.
Isabelle,
on ne peut pas dire qu'il n'avait pas la niaque.
Des
petits tournois mineurs. De faire une finale à l'Open d'Australie, une demi-finale à Roland-Garros, à Wimbledon, à l'époque de Federer, Nadal et Djokovic. Non, moi, j'ai un respect pour ce travail-là.
Vous êtes en train de me la fâcher, messieurs.
Non, c'est pas fâché. Je trouve que, voilà, effectivement, il y a un travail à faire.
D'abord, vous avez raison, il faut avoir un respect. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, ils ne sont pas entrés dans la...
Ils n'ont pas fait moins bien que Henri... Mais si, ils sont rentrés quand même dans la légende. Ils ont gagné la Coupe Davis.
Mais ils ne sont pas entrés dans la mémoire collective, hélas.
Je suis pas d'accord avec vous.
Je veux dire, hélas, Noah est entré dans notre mémoire collective.
Demandez aux jeunes d'aujourd'hui qui est Yannick Noah pour eux.
Les jeunes,
c'est un chanteur.
Je n'en sais rien.
Pas un joueur de tennis, j'ai raison. Pascal, non, vous le savez. Mais il faut aussi se mettre, parce
Isabelle,
que nous, on est de la même génération,
Isabelle,
Pascal.
Isabelle, je pense que Yannick Noah est entré, mais pour plein de raisons d'ailleurs. Il y avait d'autres
aussi,
raisons.
C'est mon idole
et puis,
de gamin.
Et puis c'est vrai pour Henri Lecomte. Ce que je veux vous dire, Isabelle, je regardais par exemple qui a été parmi les meilleurs joueurs français classés à l'ATP. Vous vous rendez compte que c'est Noah. Noah est 3e à l'ATP. Aucun Français depuis a fait mieux que lui.
5e, 6e, 7e.
Mais oui, 3e. Mais on veut pas, on s'en fout d'être 5e ou 6e. Pardonnez-moi, on veut être au moins de temps en temps premier en 37 ans. En 37 ans, Noah, non seulement Noah a gagné Roland-Garros et depuis 37 ans, personne ne l'a gagné, mais je vous dis son classement ATP, personne n'a fait mieux.
Personne n'a fait mieux, mais alors attention, avec la génération.
Isa vous disait tout à l'heure qu'il avait fallu attendre un siècle pour que l'équipe de France de foot gagne la Coupe du Monde.
L'équipe de France de rugby n'a toujours pas gagné. Que je vous dise. Voilà. Attendons un siècle, mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, peut-être que c'est un hasard. Mais quand, dans le même temps, les Espagnols ont gagné je ne sais combien de fois Roland Garros, les Américains, les Allemands.
Grâce à un homme. Surtout,
mais arrêtez, il y a eu
Carlos Moya, il y a eu Juan Carlos
Espagnols. Je sais, les Espagnols, je veux dire, produisent des joueurs de tennis. Mais bon, c'est une discussion de toute façon. On va peut-être la terminer avec Jackie, d'ailleurs, qui est éducateur de foot. Et puis, moi, je vous comprends parce que Isabelle, vous êtes, vous vivez avec les joueurs de tennis. Vous avez envie, et c'est tout à votre honneur de les.
Non, mais ça ne m'empêche pas de les critiquer,
mais,
de dire
mais c'est vrai que quand
boulot,
j'entends
effectivement le passage des juniors, on en discutait tout à l'heure en off, j'ai envie de dire avec Patrice Agelower. Oui, il faut comprendre pourquoi des juniors qui ont été très bons. On prend l'exemple de Quentin Alice, qui est de la même génération que Medvedev, qui est aujourd'hui numéro 2 mondial. Pourquoi ce garçon qui battait Medvedev chez les juniors n'a pas réussi
transition? Bonne question.
Voilà,
Jackie
là,
va vous en poser une
travailler.
Autre. Mais quand j'entends la presse française m'expliquer que mon fils a gagné parce que sa mère est là et qu'il l'a pas vu depuis 2 ans,
oui,
et que c'est le déclic, franchement, je me dis, on nous prend pour des imbéciles. Voilà. Il a besoin de sa maman pour jouer. C'est ça que j'ai entendu dans toute la presse. Ah, oh, formidable, sa mère est là, il a gagné grâce à sa mère. Bon, moi, je veux dire, il est en fin de carrière. Donc ça
quand
m'a, ça
vous
ne
voyez
un
pas
peu.
Votre maman pendant 2 ans...
Visiblement, il a perdu le lendemain, donc ce n'était pas lié à ça. Vous voyez ce que je
blessé,
veux dire.
Il n'a pas voulu le dire.
Bon, Jackie est là. Jackie.
Oui, bonjour Pascal, bonjour Jean-Michel.
Et une question pour Isabelle. C'est chaud, hein, vous avez vu
Isabelle.
Nos échanges.
Non, c'est calme.
Allez-y,
Isabelle.
Jackie.
Isabelle qui a le même prénom que ma femme, que j'embrasse. Voilà. Alors,
les
pour moi, effectivement, si je vais faire un parallèle, parce que je ne suis pas joueur de tennis. Je suis donc éducateur et dirigeant au Stade Rennais, donc football club. Et ce que je vois, l'évolution du sport en général, et c'est vrai donc au travers du foot, c'est vrai au travers du judo, au travers du handball. Le tennis est un sport individuel, donc... Ça a une approche qui peut être différente d'un sport collectif. Par contre, je pense qu'effectivement, dans le tennis, les choses n'ont pas évolué depuis un certain nombre d'années côté France. Pourquoi aujourd'hui on a des résultats donc en Coupe Davis, quand on a une équipe effectivement qui doit travailler ensemble, un staff qui doit travailler ensemble, des analyses qui doivent être concertées, collectives. Ça marche. Et Yannick Noah y a beaucoup participé. C'est mes dernières émotions effectivement dans le tennis. C'est Yannick Noah au travers de la Coupe Davis, au travers de ses victoires individuelles qui remontent à très très longtemps, comme vous l'avez dit. Par contre, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la préparation mentale individualisée dans le sport dans le tennis? Je pense pas. Le staff, il est constitué souvent d'amis, de pères, de frères, de sœurs, de mères, et ça en reste là. Donc aujourd'hui, quand on n'a pas un staff professionnel constitué pour entourer des sports de haut niveau, qui en plus demande des investissements sur la longue durée, sur des voyages, tout ça a un coût, effectivement. Donc il y a des sommes en jeu quand même. Il y a de l'argent derrière, donc ça doit se constituer, ça doit se professionnaliser.
Isabelle et Jean-Michel vous répondent.
Voilà.
Isabelle.
Il y a des préparateurs mentaux, hein. Il y en a certains qui s'en adjoignent, il y en a d'autres qui n'éprouvent pas la nécessité, mais comme dans tous les sports, hein, ça c'est une démarche individuelle, j'ai envie de dire. Effectivement, ils gagneraient certains à avoir un préparateur mental, je citerai pas de nom. Et quant à la Coupe Davis, il y a 135 pays qui la disputent, la France a toujours brillé. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi une densité de bons joueurs. Alors on peut parler d'équipe, etc., mais c'est aussi parce qu'elle a une densité de bons joueurs. Si d'autres pays ne l'ont pas gagné, parce que c'est plus compliqué d'avoir 3-4 bons joueurs qui jouent à un très bon niveau pour aller la remporter. Voilà, c'était juste.
Eh bien, merci. Merci donc à Jean-Michel. Merci.
C'est nous qui vous remercions. Vous m'avez préparé une belle après-midi, Isabelle.
Ah non, je suis en pleine
a pris
forme,
des tours. Il va falloir maintenant qu'elle retrouve son rythme de croisière.
Merci. Et puis, comme de toute façon, c'est un marronnier, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour exactement le même débat.
On se retrouvera lundi, Pascal, pour parler.
Puisque ça fera 38 ans cette fois-ci, ou 39 ans.
La génération 2048.
On prépare la génération et puis on va fêter les 40 ans en 2023 de la victoire de Yannick Noah. Il va venir Yannick d'ailleurs à Paris ou pas?
Vous savez, il est beaucoup au Cameroun en ce moment et je crois qu'il y est bien là-bas, il retrouve ses racines.
Bon, bah merci en tout cas.
Il travaille d'ailleurs avec des gamins dans des quartiers pour aller chercher le futur champion africain de demain.
Eh bah écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup.
Je peux apporter un peu de légèreté si vous voulez, Pascal?
Oui.
Du soleil, comme s'il en pleuvait.
Je pense à Jean-Michel Rascol.
Oui, parce qu'il en manque. Il en manque à Roland Garros.
Je rappelle cette information extraordinaire. Jean-Michel Rascol est le dernier du service des sports d'RTL à avoir vu un Français gagner un tournoi du Grand Chelem. Mais quel âge vous aviez, Jean-Michel, en 83?
J'étais jeune.
Vous étiez quoi, assistant, stagiaire?
J'étais jeune. Et votre ami Christian Olivier n'était pas loin.
Oui, mais vous avez travaillé le jour du match.
J'étais sur le stade. J'ai vu son papa sauter.
Croyez-moi, votre témoignage, plus les années vont passer, plus il va prendre de l'importance.
Vous faites un peu peur, mais bon.
Mais bien, vous allez devenir l'homme qui a vu l'homme. Hein. Bon.
La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Il est même 14h01 pour être précis. Olivier Bois, le flash.
Le Royaume-Uni valide à son tour le vaccin Pfizer-BioNTech pour les 12-15 ans. Chez nous en France aussi, Emmanuel Macron l'a validé cette semaine pour les 12-18 ans. Pfizer également à partir du 15 juin. Retour à la normale sur le réseau Orange. Le Premier ministre Jean Castex le confirme. Les numéros d'urgence sont à nouveau accessibles. Reste toujours à connaître les causes précises et les moyens que ça ne se reproduise plus. 4 morts suspectes ont été remontées aux autorités le soir de la panne, notamment cet enfant de 2 ans et demi qui a perdu la vie en Vendée. Sa mère a mis très longtemps à joindre les secours. Information RTL sur l'enquête qui vise Patrick Poivre d'Arvor. La police judiciaire a recueilli 23 témoignages de femmes qui accusent le journaliste de viol, d'agression ou de harcèlement sexuel entre 1993 et 2016. La justice doit maintenant décider des suites. PPDA a été entendu par les enquêteurs également. Il conteste les faits, ne s'en rappelle pas ou parle de relations consenti. Le sport, et d'abord cette annonce, il y aura 14 000 spectateurs dans le stade à Munich quand la ville accueillera les matchs de l'Euro de football qui commence le 11 juin prochain. On retourne à Roland-Garros.
RTL.
Roland-Garros 2021.
Et on vous retrouve Isabelle Langer, refaites-nous le programme du jour, s'il vous plaît.
Avec tout d'abord Monsieur Zverev, l'Allemand, qui est sur le court Philippe Châtrier, dont on ferme progressivement le toit. Bah oui, on a tendance de la pluie aujourd'hui, porte d'Auteuil. Il a fait le break d'entrée contre le Serbe Djere, il mène 2-0 Zverev. On entendra ensuite Serena Williams face à la compatriote américaine Danielle Collins. Et puis le match de la soirée sur ce court Philippe Châtrier, ce sera pas avant 21h, donc hein, après le couvre-feu et à huis clos. Stéphane Tsitsipas, le grec, l'un des favoris du tournoi, numéro 5 mondial, il sera opposé au géant américain John Isner. Voilà à peu près pour les matchs du jour.
Merci beaucoup Isabelle Langer, on vous retrouve évidemment tout au long de l'après-midi, toutes les demi-heures. 3 départements, le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne, sont placés en vigilance orange aux orages. Ces orages qui continueront à toucher dans une moindre mesure également cet après-midi l'Île-de-France. Isabelle vient d'en parler, et également le sud-ouest du pays. Voilà pour les infos.
Merci Olivier.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Notre société est-elle de plus en plus violente? C'est ce que pense Emmanuel Macron. Il l'a dit, pour le chef de l'État, la nation vit un sentiment d'insécurité. Alors, le mot sentiment, il peut faire évidemment, il peut poser question, parce que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi parfois une réalité. Nous sommes avec Alain, bonjour, qui est chauffeur routier, qui habite Auxerre. Comment avez-vous réagi à ces propos d'Emmanuel Macron, Alain ?
Eh bien écoutez, moi, bonjour Pascal, bonjour à tous. Eh bien écoutez, moi je suis parfaitement d'accord avec le Président. Il faut constater, quand on écoute les journaux ou la télé, toute cette violence à tort et à travers. Et puis, moi, le ressenti que j'ai, Pascal, c'est que je ne me sens plus beaucoup en sécurité quand je suis avec la police ou la gendarmerie censée nous protéger. Quand je vois la façon dont sont traitées les forces de l'ordre, j'ai des doutes sur leur capacité à protéger le commun des mortels comme moi et d'autres, parce que ben on se rend compte que la peur du gendarme existe de moins en moins. Et que, à mon sens, on ne leur donne pas les moyens d'avoir une autorité ferme et indiscutable.
Mais je ne saisis pas exactement ce que vous voulez dire. Vous dites, quand je suis avec des policiers, j'ai peur au fond parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient les moyens, c'est ça, de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour me protéger ?
Oui, absolument. Alors quand je dis moi, je parle de la population qui n'a rien à se reprocher et qui va au travail ou qui va. Oui, absolument. Aujourd'hui, quand je vois des gendarmes ou des policiers qui viennent régler peut-être un différend, par exemple, je n'ai plus l'impression que j'avais il y a encore quelques années de leur capacité à faire régner l'ordre.
D'accord. Mais vous remettez pas en cause, vous parlez pas, vous pensez pas à des violences, par exemple deux policiers, qu'ils auraient. Ce n'est pas dans cet esprit-là que vous disiez cela.
Non, non, absolument pas.
J'avais cru qu'il y avait une forme d'ambiguïté. Mais ce sentiment, c'est toujours important comme mot, en tout cas le mot sentiment. À titre personnel, par exemple, est-ce que vous avez subi ces 10 dernières années ou une attaque, ou un cambriolage, ou un fait, une voie de fait?
Oui, oui, absolument. Oui, je suis conducteur routier, je pars la semaine, je ne suis pas chez moi la semaine. Et donc, j'ai été cambriolé, donc je suis un ouvrier, j'ai pas grand chose, hein, j'ai pas de fortune amassée chez moi, mais cependant, eh bien, j'ai été visité, ce qui m'a contraint à installer une alarme, une télésurveillance, parce que j'ai considéré ça, j'ai ressenti ça comme un viol, et sincèrement, lorsque la gendarmerie est venue pour faire une enquête et relever entre guillemets des indices. Je n'ai pas eu. J'ai pensé qu'il venait. C'était une pure formalité, mais que dans la finalité, ça n'aboutirait pas à l'arrestation d'éventuels auteurs, ben parce qu'il y en a tellement. Et puis
Et c'est ce qui s'est passé.
Eh bien, c'est ce qui s'est passé. On a jamais.
Qu'est-ce que vous avez volé?
Eh bien, on m'a volé une télévision. On m'a volé, enfin, deux télévisions, une en haut, une en bas. On m'a volé quelques bijoux, mais qui n'avaient pas grande valeur, mais on me les a pris quand même. On m'a pris une montre Apple, enfin bon, bref.
Et ça n'a jamais été.
Ça n'a jamais été retrouvé. Et puis, les propos des gendarmes, ils m'ont dit, vous savez, il y en a tellement en ce moment. J'ai une petite voiture, j'ai la chance d'avoir une petite voiture un petit peu vitaminée. Une Renault RS pour ne pas une Clio RS pour ne pas bref, eh bien j'ai dû investir également dans une alarme et dans un garage pour la mettre en sécurité parce que c'est mon outil de travail, ça me permet d'aller au boulot le lundi et j'ai pas envie qu'on vienne me prendre
j'imagine qu'on vienne me prendre à nouveau le peu que j'ai, je travaille
pour avoir ça. Voilà.
Et votre famille, vos enfants peut-être ont ce même sentiment que vous, peut-être eux-mêmes ont subi ou un cambriolage ou un voie de fait?
Alors non, mais enfin dernièrement, ces dernières années, non. Mais par contre, je parlais avec mes petits-enfants qui sont dans des collèges ou des lycées et ils me disent qu'à la sortie des collèges ou des lycées, malgré des patrouilles de police qui sont stationnées devant le lycée, ça n'empêche pas des petits groupes d'individus qui souvent ne font pas partie du lycée ou du collège de venir semer le bordel avec l'espoir même de pouvoir revendre quelques cochonneries à fumer, au vu comme ça de la police et de la gendarmerie qui ne font rien, enfin qui ne c'est pas qu'ils font rien, c'est qu'ils restent totalement inertes parce que ça pourrait très très vite dégénérer et donc mes petits enfants pour ceux ils se dépêchent de monter dans le bus dans le car qui va les ramener à la maison. Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité une fois sortis du collège ou du lycée.
Merci Alain, merci de votre témoignage et bon week-end puisque c'est vendredi du côté d'Auxerre. J'espère que la météo sera plus clémente que ces dernières heures à Paris. Il nous reste encore quelques minutes pour échanger sur ce thème de la violence et sur les propos d'Emmanuel Macron. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le président de la République a également évoqué les faits divers. C'est intéressant ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit le fait divers permanent, chaque jour, chaque minute, il se passe un truc dans notre pays. Il y a toujours eu des faits divers. Si constamment on court derrière les faits divers, il n'y a plus de politique possible. Et c'est vrai que ces dernières semaines, il y a beaucoup de faits divers. C'est un forcené, c'est une attaque, c'est un féminicide, c'est un jeune adolescent qui au couteau frappe un de ses collègues un collégien. Donc évidemment, ça fait réagir ces faits divers et ça crée un sentiment de violence peut-être. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes assistante administrative, vous habitez dans l'Allier. Qu'en pensez-vous?
Alors, moi, ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que je vous souhaiterais prendre la défense des personnes qui avancent dans l'âge et qui, après une vie de labeur, souvent bien méritée, une retraite n'est pas du tout dorée parce qu'ils ont peur de sortir de chez eux vu ce qui se passe à l'extérieur. Et je vous dis cela parce que ces personnes regardent le monde extérieur à travers leurs volets, leurs persiennes, alors qu'avant, ils allaient voir jouer sur un terrain de boule, ils allaient dans un parc, ils se retrouvaient avec les personnes de leur âge. Et maintenant, ces gens-là, ils ne sortent plus.
Donc ça, c'est une réalité que vous constatez. Mais vous habitez dans quelle ville, Frédéric ?
Alors moi, j'habite dans un petit village de l'Allier qui a 5000 habitants, donc qui n'est pas tellement concerné par ce sujet. Mais je travaille régulièrement sur Clermont-Ferrand, qui est quand même une grande métropole, et où je discute régulièrement avec des personnes qui sont en retraite ou qui avoisinent la retraite. Et ce sont ces gens-là qui me disent, bah oui, mais maintenant, le soir, eh ben malheureusement, je ne vais plus au parc, je ne vais plus regarder jouer à la pétanque, parce que d'abord, les bancs ne sont plus réservés pour nous, mais il y a des jeunes qui fument, qui boivent, il y a des chiens dont on a peur, ça crie.
Des chiens ?
Oui, ben vous savez, c'est tous ces gens qui traînent.
Ouais.
Après, ils sont pas, je ne dis pas qu'ils sont méchants, ces gens-là, qui ne sont pas bien, mais c'est ce sentiment d'insécurité. Ces personnes âgées, on en voit de moins en moins qui passent du bon temps, et je trouve que par rapport à ce que on leur doit, par rapport à leur, ils partent sur leur fin de vie. C'est pas normal que ces gens-là soient chez eux, reclus, à regarder ce qui se passe à l'extérieur à travers leur volet.
Et ça, c'est un témoignage fréquent que vous avez.
C'est récurrent.
Alors
absolument.
Après, c'est absolument. Pardonnez-moi, hein, je pose des questions. Je ne remets pas en cause, bien évidemment, ce que disent ces personnes-là. Mais il y a une part, à votre avis, de fantasme, de peur qu'il y ait parfois ou à l'âge. Ou c'est est-ce que c'est vraiment une réalité ? C'est la seule question qui importe.
Franchement, c'est une réalité, parce que de toute façon, faut pas se voiler la face. Nous, même les plus jeunes, on voit très bien que de toute façon, maintenant, on a continuellement peur. Moi, je suis dans ma voiture beaucoup pour mon travail. Des fois, je suis arrêtée au feu. Je vois ce qui se passe. Il y en a un qui va un peu passer à l'orange sanguine. Les autres qui voient ça le klaxonnent. C'est donc celui qui a fait la faute, il fait le bras d'honneur. À la limite, il s'arrête en plein milieu. Il descend de la voiture et puis il ouvre la portière. Et
ça, vous avez le sentiment que ça n'existait pas, par exemple, il y a 20 ans ou il y a 30 ans ?
Ah, je pense que ça empire. Franchement, je pense que ça empire.
Bah écoutez, merci Frédéric de votre témoignage. J'ai envie de vous poser la même question d'ailleurs que je posais tout à l'heure à l'auditeur précédent. Est-ce que vous-même, vous avez été victime ou d'un cambriolage ou d'un acte de violence ces dernières
Absolument.
Années ?
Absolument. Alors ces dernières années, pas récemment, et bon, il y en a beaucoup, mais ça veut dire elles ne portent pas conséquences, c'est pas dramatique. Mais j'ai été moi-même, oui, un jour, j'ai eu une personne qui, dans ma rue, à 22h, a donné un coup de pied à mon chien que j'avais sorti, et j'ai été le voir en lui disant mais ça va pas, il vous a rien fait mon chien, et j'ai eu à peine eu le temps de me protéger, il a sorti une arme de son manteau et j'ai eu deux balles du plomb dans la jambe à bout portant. Ouais.
Oui, effectivement, c'est pas rien, voilà. Si j'ose dire quand
voilà.
même. Et
voilà.
Ça se passait quand ça ?
Ça s'est passé dans les années 90 à Clermont-Ferrand.
Merci Frédéric, merci.
De rien, Pascal, je vous souhaite un excellent week-end et bravo pour tout ce que vous faites. C'est un plaisir de vous écouter.
Vous êtes très gentil, Frédéric, merci beaucoup. On va terminer avec Cédric et puis peut-être un ou une auditrice sur ce sujet de la sécurité qui est toujours. Ce qui est difficile sur ces sujets, c'est qu'il faudrait apporter des statistiques et finalement, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a. On a toujours du mal à avancer avec précision sur des sujets comme celui-là où il existe parfois un sentiment, parfois un fantasme et puis parfois aussi une réalité qu'il ne faut pas nier, hein, loin de là. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Si vous nous suivez chaque vendredi, vous savez que Cyprien Sini passe régulièrement nous voir. Alors, parfois, il peut faire des petites entorses et pas venir. C'est pour ça que Greg Caranoni, qui réalisera ce soir l'émission, peut nous dire le programme, s'il ne passe pas, l'ami Cyprien.
Le programme sera exceptionnel, comme chaque semaine, bien sûr.
Mais
On défait le monde dès 19h15. Mais je peux aussi vous dire qu'il y aura un cadeau exceptionnel. C'est quasiment toutes les semaines le cas. Mais là, ce sera un séjour pour 4 personnes. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous ce soir à 19h15.
Et c'est évidemment Stéphane Carpentier qui anime la tranche de 18h.
Bien sûr, Laurent Tessier, Brice Dugénie, Marie Mollet, tout le monde sera là.
Ne manquez pas cette émission qui est formidable. Cédric, bonjour. Sur la violence, vous êtes policier.
Oui, bonjour.
Sur la violence, bonjour. Quand vous entendez le président parler de sentiments d'insécurité. Comment vous réagissez ?
Pour une fois, je partage ce sentiment. L'insécurité, elle monte, elle est grandissante en France, mais on a plusieurs facteurs, je pense, qui font que ça devient comme ça. On a quand même des choses anxiogènes, et c'est vrai que moi, 35 ans de police, j'ai vu la différence. Je viens d'un village de 400 habitants, et j'ai commencé à travailler à Évry. Voilà, donc c'est des choses qu'on voit. L'insécurité, elle monte, c'est clair. Dans le regard des gens, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être, on voit que l'insécurité, elle grandit, mais on fait rien. On peut pas dire que la société ne fasse rien contre, mais je veux dire, il y a quand même des choses anxiogènes.
Regard, par exemple, c'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes policier. C'est quoi le regard qui change ?
Alors, j'ai longtemps joué au football. Et effectivement, avant, il y avait du monde qui venait, tout ça. Maintenant, les gens ont peur, quelle que soit la situation, quoi. Les gens ont peur de se déplacer. J'entendais votre auditrice précédente qui disait que les personnes âgées n'osaient plus sortir. Mais les personnes âgées là sont aussi en boucle sur des chaînes d'infos qui ne font quasiment que du sensationnel. Quand vous voyez les gilets jaunes 22h sur 24 à la télévision, quand vous voyez les manifestations 22h sur 24, et le climat d'insécurité, il est obligé d'augmenter. Moi, je peux me promener dans la rue. J'ai un regard de policier, bien évidemment, mais je peux me promener dans la rue sans crainte. Pourquoi ? Parce que j'affronte le regard des autres. Maintenant, on fuit. Tout le monde fuit le regard de l'autre.
Et quand vous parliez des matchs de football, c'était des matchs amateurs dont vous parliez ?
Bien sûr. De la 5e division maintenant. Donc,
et vous voulez dire que les gens ne vont plus le dimanche voir ces matchs-là parce qu'ils ont peur que ça dégénère ?
Bien sûr, une fois sur deux, une fois sur trois, ça risque de partir, excusez-moi l'expression, mais ça peut partir en sucette. Un carton rouge mal placé, un truc. Mais c'est toutes les compétitions qui sont comme ça. Et c'est tout le monde qui... Vous allez sur... vous promenez. Moi, j'aime bien, j'habite en banlieue parisienne. J'aime bien aller me promener dans les parcs, tout ça. Le regard des autres. Mais vous croisez des gens... Si vous les regardez un temps soit peu dans les yeux, tout le monde baisse la tête. Baisse la tête. Ils ont toujours peur, comme disait votre précédente auditrice. Ils ont peur d'une agression, ils ont peur d'un mauvais regard, d'un mauvais coup, mais on devient vraiment des...
C'est pas très gai ce que vous nous dites, Cédric. Vous êtes le dernier auditeur de la semaine. Laurent Tessier va essayer de nous apporter un peu de légèreté avec le débrief, mais c'est vrai que ce que vous nous dites ne nous emplit pas de joie. Merci beaucoup, Cédric.
Bon week-end quand même.
Mais quand même, comme vous dites. Il va faire beau un peu. Pas partout, mais il va faire beau. Laurent Tessier, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Un animateur historique, Philippe Bouvard, était votre invité au début de l'émission à l'occasion des 100 ans de la radio. Bon, il a tenu à apporter d'entrée une précision.
Je suis quand même né après la radio.
Oui, effectivement, vous êtes un peu plus jeune que les 100 ans.
Et François a été le premier à dialoguer avec Philippe Bouvard.
Bonjour monsieur Bouvard, parce que je pense qu'il y a des gens qui méritent le monsieur et vous en faites partie.
Oh ben mon cher François, enlevons monsieur, parce que, vous savez, la radio c'est quand même un média intime.
Jacques n'a pas hésité à prendre son téléphone pour intervenir à l'antenne.
C'est un honneur de vous parler, M. Bouvard. Vous avez été une des premières personnes à me faire pleurer, M. Bouvard. Mais de rire.
Et puis, cette séquence a aussi été un moment émouvant pour Thierry.
Si j'avais su de tout petit que quand mon papa me faisait écouter RTL, qui n'est plus ce monde, qu'un jour je parlerais à M. Bouvard, j'aurais jamais cru. Mais bon, tout arrive dans la vie. C'est une voix, c'est la proximité. Je pense qu'il n'y a que la radio qui me transmet ça. Et M. Bouvard, comme, si je peux me permettre, M. Bellemare, ce sont des voix qui font partie de notre vie.
Allez, parlons de football, si vous le voulez bien.
Non seulement j'ai jamais commenté un match de foot, mais je n'en ai jamais vu aucun.
Bon, effectivement.
Je ne m'intéresse absolument pas à la baballe.
Ah, parlons alors de tennis, et là, on le sentait venir.
On a l'habitude de dire qu'il n'y a plus de joueurs français à Roland-Garros en deuxième semaine, mais au bout de 4 jours seulement, c'est tout simplement du jamais vu depuis 1968.
Hécatombe, débâcle, aucun Français au troisième tour. L'ancien joueur Henri Lecomte n'est pas surpris. Isabelle Langer a pu l'interroger.
On est tous sous le choc. On travaille pas assez le mental. On n'est pas fort, on est faible. Et puis, on manque de leader. Je crois qu'on s'est endormi.
Ouais, bah oui, et Bernard aussi est très critique.
Quand on veut être sportif de haut niveau, quand on veut gagner des choses comme ça, il faut penser tennis, il faut vivre tennis, il faut manger tennis, il faut boire tennis, et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Et au cœur de la rédaction, Brice Dugénie, notre grand reporter, que vous retrouverez dans Défait le Monde ce soir, un message pour les joueurs français.
Mais vous n'avez aucun mental.
Ah, ça c'est fait, le débrief pour aujourd'hui c'est terminé, vous validez Philippe?
Oui, vous avez gagné, vous reviendrez en deuxième semaine.
Enfin, j'en suis ravi, alors on peut se quitter avec la chanson préférée des joueurs français, Roland Garros. On complète la playlist, Greg Caranoni.
Voilà, c'est fini.
Bah oui, malheureusement.
Jean-Louis Aubert, il est 14h25, on va retrouver Roland Garros. Il y a une chose qui est formidable maintenant, c'est le toit, parce qu'il oui. pleut à Paris, mais le toit est là, donc les joueurs peuvent continuer de jouer. Je ne sais pas en combien de temps d'ailleurs ce toit se met en place, mais manifestement c'est très rapide.
Ah, c'est une info
Isabelle,
pour
Isabelle, elle est là, Isabelle, ou on va la retrouver à 14h30?
Je suis là, je suis là.
En combien de temps le toit se déploie?
9 minutes.
C'est formidable.
J'ai mon spécialiste
ça.
Du toit à côté, Jean-Michel Rascol, qui m'a soufflé le temps.
Mais non, mais c'est vraiment formidable, c'est parce que ça change la vie de Roland Garros.
Où on était surpris là avec Jean-Michel, c'est qu'ils l'ont déployé pendant le match de Alexander Zverev contre Laszlo Djere. Et ils n'ont pas arrêté le match, vous voyez. Ça se fait tranquillement. Ça met un petit peu moins de luminosité sur certains coins du court pendant qu'ils sont en train de jouer. Puis après, il y a les lumières, donc ils peuvent jouer tranquillement.
En tout cas, Pascal aura trouvé quelque chose de positif à Roland-Garros cette
exactement,
année.
Exactement. Mais exactement. Toi, mon toi. 14h26, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.